France Culture.
Esprit de Justice qui vous propose ce soir de revenir sur une vieille affaire d'il y a quelques années, mais qui n'a peut-être pas livré tous ses enseignements. Et c'est pour ça que l'émission sera consacrée à l'affaire Doutreau 20 ans après. Nombre d'auditeurs se souviennent probablement de la fameuse affaire Doutreau qui a défrayé la chronique il y a une vingtaine d'années. De nombreux enfants, ils étaient 16 au total, avaient mis en cause 17 adultes pour des actes d'agression sexuelle. Finalement, 13 de ces adultes furent acquittés au terme de 2 procès retentissants et après de nombreux mois, voire d'années, de détention provisoire. Alors on a qualifié cette affaire d'immense erreur judiciaire, de fiasco judiciaire, à tel point qu'elle motiva, ce qui est rarissime, la création d'une commission d'enquête parlementaire et amena le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, à écrire dans un courrier aux acquittés ses regrets et ses excuses. Alors, si la vérité judiciaire a été définitivement arrêtée à la fin de l'automne 2005, après le second procès, celui de Paris, on pourrait dire même 2015, après le procès des assises de Rennes, cette vérité s'est arrêtée sous la pression à la fois médiatique et politique. Le travail de justice, lui, ne s'arrête pas pour autant. La vérité, dit l'adage, est la fille du temps. Verita filia temporis, pour le dire en latin. Et donc, une fois le verdict rendu, c'est aux historiens, aux journalistes, aux citoyens de prendre le relais du jugement pour apprécier la qualité du travail des institutions, apprécier leur justice en quelque sorte. Eh bien, c'est ce travail que deux auteurs qui ne sont pas juristes, qui n'ont pas d'intérêt corporatiste ou autre dans cette affaire, deux auteurs ont récemment effectué un tel travail à propos de l'affaire Doutreau en reprenant patiemment toutes les pièces du dossier, et ce qui leur est facilité d'ailleurs par la procédure écrite et le nombre de livres qui ont été publiés sur cette affaire. Alors, Esprit de Justice a décidé de les inviter pour entendre leurs conclusions. Il a le plaisir de recevoir Jean Songe, qui, quand il délaisse le roman noir, s'adonne à des enquêtes très minutieuses et qu'il a publiées dans un livre intitulé « À l'ombre d'Outreau », publié aux éditions Don Quichotte Le Seuil en 2024. Et avec lui, Frédéric Valandret. Frédéric Valandret est docteur en histoire contemporaine et essayiste, et il observe le monde judiciaire en autodidacte du droit pénal, ce qui lui permet peut-être d'avoir un regard distancié, voire plus impartial, c'est ce qu'on verra. Et il a publié au moins 2 ouvrages sur cette question. Meurtre à Outreau, dossier analytique, aux éditions Nombre 7 en janvier 2023, et puis plus récemment, un petit ouvrage intitulé « Affaire Doutreau, l'histoire belge », publié en auto-édition en août 2024 sous le label The Book Edition.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et
bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors ma première question, c'est pourquoi, quand on n'est pas juriste, pourquoi s'intéresser, pourquoi investir autant de temps, Jean Songe, dans cette affaire? Il a fallu vous confronter, vous frotter à des notions qui vous étaient un peu étrangères, non?
Tout à fait. Alors, comme vous l'avez évoqué, je viens du roman noir, je suis romancier à la base. Donc, le roman noir implique quand même une certaine vision critique de la société. Passer au crible, quand même, c'est défaut, c'est pas une apologie de la société, c'est plutôt un angle critique. Et à côté de ces romans, depuis quelques années, je développe ce que j'ai un peu pompeusement intitulé des livres d'intervention civique.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai étudié le monde nucléaire, parce que j'habite à 20 km d'une centrale nucléaire. J'ignorais où j'avais les clichés qu'a un peu tout le monde sur le nucléaire, qu'est-ce que ça est. Donc, pendant 2 ans, j'ai étudié le monde nucléaire. J'en ai tiré un livre qui s'appelle « Ma vie atomique ». Ensuite, je me suis penché sur les multinationales à travers la Sodexo, qui est la plus grosse multinationale française, pour étudier un peu cet aspect, se décortiquer, qu'est-ce qui se cache derrière une multinationale, avec toujours un angle critique. Et pour l'affaire Doutreau, il y avait plusieurs paramètres. Il y avait le fait quand même essentiel de la violence faite aux enfants, qui est pas un fait de société anodin, c'est quand même, on parle de 160 à 180 000 agressions oui. par an. Mmh, mmh. C'est quand même colossal. Que l'affaire Doutreau avait marqué vraiment les esprits et qu'en 2024, c'était les 20 ans du premier procès à Saint-Omer. Et en regardant d'un peu plus près ce qui avait été publié jusqu'ici, je m'étais aperçu que les attitudes et les opinions étaient très tranchées. C'était ou noir ou blanc, et à l'exception du livre de l'avocat Gilles Antonovitch, qui était le plus nuancé, tous les autres livres qui ont été produits gommaient toute nuance. C'était à charge ou à décharge, point.
Surtout à charge contre la justice.
C'était à charge contre la justice, et puis au-delà de la justice, vis-à-vis de plein de pans de l'histoire ou des personnages impliqués dans cette affaire. Voilà les grandes lignes.
Alors, Frédéric Valandré, même question. Pourquoi vous êtes intéressé à l'affaire Doutreau? Ça fait longtemps si vous y intéressez.
Oh, depuis une vingtaine d'années, on va dire.
Ah oui?
Alors, en fait, ce qui m'a intéressé de manière générale dans cette affaire, c'est qu'en fait, l'affaire Doutreau, c'est un peu l'affaire de tous les extrêmes. C'est-à-dire, bien sûr, les premières victimes, ce sont bien sûr les enfants qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques à caractère sexuel gravissimes. Ça, évidemment, ça, on peut absolument pas laisser.
Oui, on y reviendra, c'est central dans ce dossier-là, mais c'est devenu plus central.
C'est effectivement de tous les extrêmes, dans la mesure où on est passé, effectivement, il y a eu un mouvement de balancier médiatique, avec, dans un premier temps, lynchage médiatique, des mises en examen, qui eux-mêmes ont subi des... dans un registre évidemment différent, des violences physiques pendant pendant la détention prévisoire, un certain nombre d'entre eux, vexations et violences physiques. Et par la suite, le hachage médiatique du magistrat instructeur Fabrice Burgot. Ça, c'est de manière générale.
On reviendra sur ce virement, parce que ça... on reviendra sur ce virement. Mais je voudrais commencer par votre conclusion, Jean Songe. Vous disiez, vous adoptiez une attitude critique à l'égard de Sodexo, à l'égard du nucléaire. Mais là, vous adoptez une attitude qui est tout à votre honneur, parce que vous hurlez pas avec les loups, on pourrait dire. Et votre livre se termine par un dernier chapitre qui s'appelle « Trou noir ». Vous dites « L'affaire Doutreau a été une apocalypse, conformément à l'étymologie grecque qui signifie « dévoilement ». En effet, ce n'était ni une erreur judiciaire, aucun innocent n'a été condamné, ni un fiasco judiciaire, qu'on le déplore ou pas, la machine, une fois lancée, a roulé comme d'ordinaire, avec les failles de son système et les lacunes de ses représentants. » Ce procès a tout simplement été dévoilé, ce qui était tapis derrière les apparences. Tapis derrière les apparences. Alors, Jean Songe.
C'est là où il y a la vision, je dirais, du romancier noir. Moi, je sépare pas la littérature de l'analyse critique, etc. C'est aller voir, en effet, derrière le rideau qui masque certaines choses. Et d'essayer de révéler justement à ceux qui ignorent ou qui ne veulent pas voir. Je trouve que c'est l'intérêt principal de la littérature au sens large, même au-delà de l'enquête, enfin que ça concerne autant l'enquête que les romans, etc. C'est aller au-delà de l'illusion. Je pense qu'un des principaux travaux de l'écrivain, c'est de briser les illusions.
Toutes les illusions.
Toutes les illusions.
Toutes les illusions.
Ouais. Et d'essayer déjà de trouver quelles sont ces illusions.
C'est ça.
Déjà essayer de les repérer et ensuite de démontrer en quoi ce sont des illusions.
Alors, en quoi ce sont des illusions? Dans ce procès, il y a, c'est mon impression en tout cas, Frédéric Valandré, c'est qu'on démarre sur une affaire qui est malheureusement banale, qui est hors norme par la gravité, par le caractère sordide de l'ambiance, et l'enquête part sur des actes terribles commis sur des enfants, et puis tout d'un coup, justement, ça vire. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, cette affaire, et puis on va revenir sur le virement?
Comme vous le disiez à l'instant, à juste titre, au début, c'était considéré comme un banal dossier d'inceste intrafamilial. Bon, donc le seul enquêteur saisi, c'était la brigade de protection des mineurs du capitaine Vallet. On estimait que ça n'irait pas plus loin. Jusqu'à ce que Myriam Badawi, donc une des principales mises en cause, qui a reconnu trop vite sa participation au fait, a commencé à mettre en cause d'autres personnes. Dans un premier temps, elle a dit « Ah, un sex shop à Boulogne-sur-Mer qui serait impliqué. » un petit peu plus loin, un peu après, elle a dit « Ah, il s'est passé des choses en Belgique ». Et elle a commencé à mettre en cause un certain nombre de personnes. Mais entre février et août et novembre 2001, à ma connaissance, un seul article dans la presse. Laurent Renaud dans La Voix du Nord. Un tout petit article, très modéré, très bon, on a dit bon, voilà, très, avec le conditionnel d'usage. Et les deux gros points de bascule, ça a été l'arrestation de ceux qu'on a appelés les notables, le 14 novembre 2001. Parce que là, on n'était plus dans des personnes issues de milieux modestes, avec effectivement l'arrestation donc, de Lucie Alain Maricot, oui, de son épouse.
Oui, c'est ça. D'un prêtre.
Voilà. D'un prêtre, bon. Du chauffeur de taxi, oui. Pierre Martel, qui n'était pas un notable, mais oui. pour certains, quelqu'un qui a les moyens mais de jouer au golf, ça passe pour ça. Un notable.
Oui. Voilà. On sort du quart monde.
Voilà. On sort un peu, on sort effectivement du Lumpen prolétariat, voilà, comme disait voilà, Karl Marx. C'est ça, oui. Voilà. Ça, c'est le premier gros point. C'est à partir de ce moment-là que la presse nationale, et régionale et nationale commence à alimenter, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à partir en quenouille.
Oui.
Et là où ça part encore un peu plus en quenouille, c'est quand un des mis en examen, Daniel le grand-fils, un des futurs acquittés,
oui.
en rajoute une couche en révélant avoir été témoin du meurtre d'une fillette qui aurait été violée, battue à mort, donc au cinquième étage de la résidence Les Merles, dans le T4 l'appartement T4 des Delay.
Qui venait de Belgique, donc qui met une dimension internationale.
Exactement.
C'est ça. Et, mais comment vous expliquez l'un et l'autre pourquoi ça embraye? Pourquoi l'intérêt médiatique embraye? Est-ce que c'est parce que c'est ce qui ressort à la lecture de ces livres? On a l'impression que c'est une usine à fantasmes, l'affaire d'Outreau. C'est-à-dire oui. qu'il y a, c'est tellement horrible que ça ne peut qu'attirer l'attention médiatique, Frédéric Valandré.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est à partir du moment où des gens qui ont été étiquetés notables que l'affaire a pris une dimension nationale. Parce que bon, ça sortait de l'ordinaire. Voilà. Parce que des affaires d'inceste intrafamilial,
bien sûr,
c'est pas ce qui intéresse généralement, ça intéresse pas plus que ça, mais c'est à partir de ce moment-là. Et puis, la proximité géographique avec la Belgique. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le traumatisme de l'affaire Dutroux, la commission d'enquête qui avait été mise en place avait révélé des dysfonctionnements gravissimes en Belgique. Et même si c'est pas une affaire de pédocriminalité, le traumatisme de l'affaire Jourdain.
Oui, vous pouvez rappeler pour nos auditeurs cette affaire horrible.
Ah oui, cette affaire horrible, parce qu'en fait, quand vous regardez dans les années 80, fin des années 90, début des années, vous regardez la presse, l'affaire d'Outreau, les habitants d'Outreau, deux habitants d'Outreau et deux de leurs camarades, donc quatre adolescents qui étaient partis fêter faire la fête pour le carnaval en février 97, qui ont été pris en stop par deux ferrailleurs, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, qui avaient déjà un lourd pédigré judiciaire, et qui les ont violés et tués donc dans un blockhouse sur une plage du côté du Portel. Et considérant que c'est des gens qui n'avaient strictement rien à faire dehors, évidemment, on a beaucoup parlé du laxisme de la justice à l'époque, comment ça se fait que des monstres pareils, les frères siamois de l'horreur, qu'avait dit Luc Frémiot, avocat général au procès en octobre 2000, comment ça se fait qu'ils étaient dehors. Donc déjà, il y a ça. Et à l'époque, comme pour exorciser, la quincaillerie où ils habitaient avait été incendiée.
Alors, j'en songe, c'est finalement plus la mise en cause de notables que l'inceste ou la pédophilie en soi qui intéresse.
Bah, hélas, cela semble le cas dans l'écho médiatique, en tout cas.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut donner une dimension supplémentaire pour sortir du fait divers. Alors qu'en vérité, un fait divers n'est jamais un fait anodin. Enfin, le fait divers, même le mot, il est pas juste, il est pas approprié, parce que chaque fait divers est exceptionnel, en vérité. Mmh. Ils sont tous différents. Mais il suffit, en effet, qu'il y ait un mélange d'individus de différentes classes sociales pour qu'il y ait une espèce d'émulsion qui se produise et qui fasse exploser le truc. Tant qu'en effet, comme l'a dit Frédéric, tant que c'était des pauvres érémistes, chômeurs, etc., tout le monde s'en foutait, de toute façon. Les adultes n'intéressaient pas, les enfants étaient mis de côté, etc. C'est quand... Voilà, et il y avait quand même, en effet, comme il a été rappelé, je pense que dans... c'est même pas dans l'inconscient, parce que les policiers de l'époque le disent, et le juge le pense aussi, ils veulent pas passer à côté comme lors de l'affaire du trou.
Ils ont peur.
Ils ont qu'une crainte, c'est de passer à côté d'un truc. Donc, fatalement, on va dire que ils sont guidés, même si c'est pas conscient, toujours à l'arrière-plan, je pense, de l'esprit, en se disant, il faut surtout pas qu'on passe à côté d'un truc. Évidemment, tout de suite, ça influe sur le cours, sur le suivi de l'instruction.
Et ça explique le fait que le juge Burgot va être très actif et va prendre les choses très 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 au sérieux.
Non, on peut pas lui reprocher au juge Burgot, contrairement à ce qui a été dit après le procès, parce que on peut souligner quand même que pendant l'instruction, les avocats se sont tus et n'ont jamais rien eu à lui reprocher pendant l'instruction. Ils sont très peu intervenus, hein. On a lu leur PV et tout. Moi, j'étais stupéfait de découvrir le peu d'implication des avocats de la défense par rapport à leurs clients, franchement.
C'est ça.
Et ensuite, ils ont paradé en disant le juge Burgot est un incapable, etc.
Alors, Frédéric
Bellandré. Je vais quand même nuancer un petit peu. Ce qui est très intéressant aussi pendant l'instruction, c'est qu'il y a aussi des avocats de la défense, soit un, je ne vais pas le citer, il a quitté le métier depuis une vingtaine d'années. Il est intervenu à l'instruction, mais pas au procès, aux différents procès. Qui était l'avocat de Daniel le grand-père, donc un des mis en examen. On a eu une espèce de comportement un peu schizophrénique, parce que c'est d'un côté, il a tenu des propos qui relèvent du racisme de classe, parce que c'est lui qui a dit c'est chez Jean-là, on se tape un petit garçon comme on se tape une bière. Mais d'un autre côté, en tant qu'avocat de Daniel le grand-père, il a fait le job, parce que c'était une lignée des contradictions par rapport au fait que Mme Badawi n'avait pas repéré le kyste de Daniel le grand-père, qu'elle aurait dû le signaler, etc. Mais donc, d'un côté, il a alimenté un discours qui relève du racisme de classe,
C'est ça.
Mais de l'autre côté, il a fait son boulot. C'est ça qui est assez intéressant.
Mais au procès, alors là, vous le décrivez très bien, parce que votre livre, J'en songe, est organisé dans le procès de Saint-Omer. Là, il se passe des choses. Et là, les avocats redonnent de la voix.
Je le déplore. Je vais pas le déplorer, mais ça serait à l'issue de toute l'étude de ce procès, c'est quand même il y a une attitude, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a même je sais plus un magistrat qui dit, il se pose la question, est-ce que les avocats de la défense sont des auxiliaires de la justice? La question se pose quand même, c'est-à-dire que pendant l'instruction, en effet, les avocats de la défense ont très peu critiquer le travail du Burgot, voire pas critiquer. Il y a eu très peu de demandes de pièces supplémentaires, etc. Et quand on analyse certains éléments des dossiers ou périphériques, en vérité, l'instruction ne les a pas intéressés. C'est-à-dire que on va aller au procès et on va faire de la pub et on va cibler les enfants. C'est là où c'est particulièrement, je dirais, désastreux. C'est qu'il y a eu une volonté consciente, de toute façon, au procès, de s'en prendre à des enfants.
Et sous quelle forme? Comment ils s'y sont pris pour s'en prendre à des enfants?
Pour moi, c'est de l'agression verbale. Il faut se rendre compte, quand même, que dans ce procès, il y avait 18 avocats de la défense, hein, c'est ça?
Oui.
À peu près.
Hein,
à peu près. Donc, qui, à tour de rôle, où ça peut durer des heures, reviennent sur les mêmes questions pendant des heures, un enfant le questionnant. Des enfants, au moment où les faits sont passés, sont très jeunes. Il y a des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on leur demande d'être précis sur des faits absolument abominables. Et on leur dit, tu vois, là, franchement, ça tient pas ton truc.
C'est un menteur.
En exagérant un peu, c'est comme si on demandait, imaginez, un enfant en bas âge qui est en train de se faire agresser sexuellement, c'est-à-dire qui est en train de se faire sodomiser, disons les mots, et on va lui demander de décrire la chambre dans laquelle ça se passe. Enfin, c'est insensé. Ça n'a pas de sens.
Et à ce moment-là, les avocats vont prendre le pouvoir, vont prendre le contrôle du procès. Vous confirmez ce fait, Frédéric
Bellandré? Oui, tout à fait. Surtout que du côté du parquet, Gérald Le Signe, même s'il a été, c'est lui qui faisait qui était actif pour les communiquer pendant l'instruction, au procès, il était très discret sur le plan médiatique. Il faisait pas de commentaires.
C'est ça. Alors qu'une partie du procès se jouait dans les médias, qui avaient viré leur cutie, pour prendre notre expression, Janson. C'est-à-dire qu'ils avaient changé de leur fusil d'épaule. Les avocats donnent de la voix, font leur métier, mais peut-être plus que leur métier, ou on va revenir là-dessus, accablent les enfants. Et le procureur en face, là, il suit les titres du procureur. Le procureur ne parle pas aux médias.
Ouais. Et d'autant plus qu'au cours du procès, il y a quand même, je dirais, un empêchement des avocats de la défense pour que le président de la cour d'assises ne puisse pas citer les pièces à charge du dossier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de contredire et de contrecarrer, de toute façon, toute opposition. Quand les avocats de la défense veulent intervenir, en général, ils interrompent, enfin, ils perturbent le cours de l'audition, quoi.
Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, en termes vulgaires, ils pourrissent l'audience.
Ils pourrissent l'audience. Il y a une avocate, pardon.
Vas-y, oui.
Il y a une avocate, qui est l'avocate de Myriam Badawi, qui a reconnu ensuite, et qui est peut-être une des personnes les plus sensées, en tout cas, de ce point de vue, qui a comparé quand même la tenue des avocats, c'est-à-dire la tenue, enfin, le comportement des avocats, elle l'a comparé à une charge des All Blacks.
Oui, c'est ça.
Une charge des All Blacks, ah, avec tout l'impact qu'on peut imaginer, mais sur des enfants.
Sur des enfants.
C'est-à-dire, c'est pas des rugbymen qu'ils ont en face.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue à réfléchir sur l'affaire Doutreau 20 ans après, en compagnie de deux auteurs indépendants, non juristes, Frédéric Valandrey et Jean Songe, qui a choisi de nous faire entendre cet air de Out of Africa, une musique de film, Jean Songe.
Oui, j'ai choisi ce titre particulièrement parce que c'est une des rares fois à l'écran où la fusion de l'image et de la musique est à mon sens parfaite. Et si on a la curiosité d'aller voir cet extrait, pour moi c'est la visualisation de l'âme. C'est très rare.
Oui.
Ouais.
C'est ce que vous avez ressenti,
ouais,
en voyant
complètement.
Ça.
Voilà. Ouais.
Et le lien avec l'affaire Doutreau?
Ben parce qu'on cherche toujours. Enfin, j'espère qu'on cherche quand même à s'élever un peu.
C'est ça.
Et à la fois avoir un peu de légèreté, de la profondeur, c'est un mix subtil.
Voilà. Mais alors vous notez quelque chose, moi je n'étais pas au procès de Saint-Omer, vous notez quelque chose qui m'a vivement intéressé, Janson, je sais, la situation dans la salle d'audience des enfants. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de monde, on met les enfants à la place du box des accusés, en quelque sorte. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la disposition du procès.
On, on, on fausse l'approche
spatiale.
On fausse l'approche et surtout principalement des enfants, puisque là ils se trouvent confrontés de visu face à leurs agresseurs, à leurs parents, etc. C'est-à-dire qu'ils sont mis dans une position totalement intenable.
Frédéric Valandré.
Entièrement d'accord. Surtout qu'en fait, quand on regarde les images de l'époque, où évidemment les enfants n'étaient pas filmés, on a l'impression que les accusés sont une espèce de salle de classe.
Bon. Oui.
Une salle de classe, non pas, hein, ça fait pas du tout.
Ah oui.
Et ce qui est quand même aberrant, c'est qu'un certain nombre de médias, enfin, une certaine journaliste, que je ne citerai pas, qui a répété dans son livre maintes fois, considéré comme référence, a dit le box des accusés. Alors qu'en fait, elle dit ils sont dans le box des accusés, alors qu'en fait, ils étaient dans la salle.
Ah oui, c'est ça. Les accusés étaient dans la salle,
oui.
Et les enfants étaient dans le box des accusés.
Oui. Donc, au moment de leur audition, en tout
c'est
cas.
C'est ça. Il y a un renversement, enfin, total, aberrant. Enfin, ce n'est pas sauté aux yeux de ceux qui ont mis en place ce dispositif, ça me semble...
Ça, c'est une faute imputable à la justice, pour le coup.
Oui, vrai. Alors ils ont dit que c'était des questions de coûts, qu'il y avait trop de retombées médiatiques, trop de monde... Enfin, n'empêche, c'est impensable, quoi.
Et alors, revenons sur les avocats. On ne cite aucun nom, donc comme ça non, permettra de parler librement, Songe. Les avocats font bloc, et ils font bloc aussi avec la presse.
Ah ben, je pense qu'il y a une connivence. Je pense qu'il y a une connivence flagrante, à mon sens. La journaliste, en effet, que Frédéric évoquait, qui dans son livre La Méprise, donc chacun pourra se référer pour trouver la personne, quand elle fait son livre, quand même, qui est publié après le premier procès, mais avant le procès en appel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir diffuser largement, avoir du succès et tout, et avoir un impact, mine de rien, à la fois éventuellement sur les futurs jurés, sur les magistrats, etc., se permet des approximations absolument aberrantes, voire des falsifications, et elle se vante dans son livre d'avoir consulté le dossier, d'y avoir consacré 15 jours, et qu'il n'aurait pas été un luxe d'y consacrer 15 jours supplémentaires. Ça montre sa légèreté. Je veux dire, il y a 30 000 pages. Je défie quiconque de lire le dossier en 15 jours.
Ce que vous avez fait, vous.
Oui, Frédéric l'a fait aussi, de toute façon.
Oui.
Et à mon sens, je crois qu'elle a uniquement consulté les pièces que les avocats de la Défense lui ont fournies et qui allaient dans leur sens. Je crois.
Frédéric Valandré.
Il faut bien voir une chose, cette proximité entre la presse judiciaire et les avocats de la Défense a été... Il faut dire ce qu'il est. Il y a un vieil adage bien connu, il n'y a pas besoin d'être un fin juriste pour le savoir. Une accusation mal ficelée, c'est le meilleur allié de la défense. Or, pour moi, le parquet, a eu commis une grosse erreur en maintenant dans le dossier à la fin de l'information judiciaire des éléments qui auraient dû être écartés. Sous une appellation, l'appellation habituelle, en l'état, il n'y a pas de charge suffisante. J'estime, moi je l'ai dit dans mon dernier livre, que Gérald Le Signe, qui a reconnu devant la commission d'enquête parlementaire et devant les inspecteurs, l'inspection générale des services judiciaires, qu'à la fin de l'information, en 2003, il ne croyait plus au volet belge.
Oui.
Il pensait quelque chose. Il a dit devant la commission d'enquête, il a dit quelque chose d'improvisé dans le cadre d'une pornographie de groupe. C'est-à-dire des scènes collectives, mais pas quelque chose de structuré qui se serait passé en dehors du territoire national. Ça a été maintenu au cas où il y aurait des éléments qui se rajouteraient en dernière minute. Mais ça, évidemment, c'est faire un cadeau.
Mais c'est ça. Alors, il y a un autre adage dans la justice qui est bien connu des avocats et des juges aussi, c'est quand votre affaire est bonne, plaidez-la. Quand votre affaire est mauvaise, compliquez-la. Compliquez-la de façon à ce que, pour les jurés, ça devienne quelque chose d'impossible à démêler. On a assisté à quelque chose comme ça dans la défense.
Tout à fait.
Une stratégie de la confusion.
Stratégie de la confusion. mais aidé, je dis, par le fait qu'on a maintenu dans le
C'est ça. Donc, avec qui a été aidé
des
par
choses
une accusation
qui auraient dû être mises de côté.
Ou à tout le moins requalifier certains faits pour certains protagonistes. On aurait requalifié certains faits à minima, par exemple, de violence sur enfants ou de maltraitance, etc.
Ça aurait été plus juste.
Ça aurait été beaucoup plus juste, certainement.
Et donc, ça aurait été permis d'entrer en voie de condamnation.
Je pense. Mais bon, les faits sont que ça n'a pas été fait de toute façon.
Et on s'est retrouvé avec une situation qui est quand même assez intéressante. C'est que, ce qui est quand même pas commun, c'est qu'au procès de Saint-Omer, nous avons des policiers qui sont généralement pas considérés comme des amis des avocats de la défense, qui ont été cités par la défense pour justement étayer l'idée d'un dossier vide ou à peu près vide. Parce que les enquêteurs belges ont été cités par les avocats de la défense pour évidemment, en filigrane, laisser entendre que tout ce qui serait passé à la Tour du Renard n'était pas si grave que ça. Il y avait une arrière-pensée, je pense.
Oui, c'est ça. Mais c'est il y a aussi dans ce dossier-là, j'en songe, il y a aussi la comment dirais-je ces contradictions. Ces revirements notamment de Myriam Badawi font que il y a tellement de virements de position, y compris parmi les accusés, et donc qui sont des accusés qui alimentaient en partie du moins l'accusation. Ça faisait que effectivement on ne pouvait pas retrouver les siens.
Ah ben c'est très très difficile. Il y a de toute façon dès le départ, il y a le nombre de protagonistes impliqués.
Qui était peut-être un peu trop grand.
Je sais pas, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que on s'aperçoit à la lecture du dossier, c'est qu'en parallèle, des personnes qui ont été acquittées peuvent très bien dire, et déjà à l'époque, je n'ai rien à voir avec l'affaire d'Outreau, c'est-à-dire circonscrit à Outreau et au quartier de la Tour du Renard. Mais sauf que quand on épluche le dossier, dans leur famille, il y a quand même des dysfonctionnements majeurs. Alors, en effet, ils ne sont certainement pas, et je pense à nombre d'entre eux, j'en suis persuadé, je pense que Frédéric partage ça, qui n'ont aucun lien direct avec l'affaire d'Outreau, qui sont pas, mais à côté de ça, et c'est pour ça que l'affaire était mal ficelée, parce qu'il y a des dysfonctionnements évidents et gravissimes dans certains cas.
Et alors donc, ça veut dire que quand le procès de Saint-Omer se termine, la vague de l'acquittement est la plus forte par rapport à celle de l'accusation. Frédéric Valandré, quelque chose qui est perdu.
Oui, tout à fait. Et c'est quand on lit les comptes rendus de presse qui suivent le verdict de Saint-Omer. Verdict illisible, incompréhensible, on a cherché à sauver l'institution judiciaire du naufrage, parce que, en fait, c'est l'impression qu'ont eu les chroniqueurs judiciaires, éditorialistes chroniqueurs judiciaires, c'est que le procureur Le Signe, qui occupait également le poste d'avocat général, a voulu sauver le dossier en élaguant un certain nombre d'éléments, dont la piste belge, évacuée en une phrase dans le réquisitoire.
Qu'il aurait dû faire avant.
C'est ça. Et en recentrant sur la résidence Les Merles.
Oui.
Avec quelque chose, effectivement, d'un peu improvisé, mais pas du tout réseau structuré, organisé. Ouais, comme ces réquisitions ont été grosso modo suivies par la cour et les jurés, donc, évidemment, on se dit, c'est un scandale, etc.
Et le tour de passe-passe, qui est à la fois, je dirais, une collusion des journalistes, des avocats de la défense, c'est que le statut de victime était totalement renversé. C'est-à-dire que les enfants, à partir du premier verdict, les enfants disparaissent quasiment. Ils sont occultés. Et les victimes deviennent les personnes qui ont été accusées et qui seront acquittées.
Mais entre deux, il y a le procès de Paris.
Oui.
Il y a le procès de Paris, on peut en dire un mot quand même, parce que là, on a l'impression que l'institution judiciaire elle-même, le procureur général de Paris, je crois d'ailleurs, intervient et sort complètement de son rôle également, à ce moment-là, Frédéric Valandré.
Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle du parquet de Paris dans le procès, le procès en appel de novembre 2005, parce que avant le procès. Alors, Stéphane Durand-Soufflant, qui a suivi le procès pour le Figaro, enfin également le procès de Saint-Omer, et Geoffroy Tomasovic du Parisien, ont été, pour l'organisation du procès, hein, ils ont, au moment de l'organisation, du peu de temps avant le procès en appel, ils ont eu des contacts avec les magistrats du parquet. Et on leur a fait comprendre, non, écoutez, le dossier tient, l'expression c'est le dossier tient à la colle, il y aura des condamnations, à Saint-Omer sont des nuls, ils se sont trompés, ils ont pour les Legrand, ils ont acquitté le père alors que c'est le fils qu'il fallait acquitter. Donc ils étaient là en disant, vous inquiétez pas, il y aura des condamnations. Alors d'après ce qu'a dit Stéphane Durand-Soufflant, il y en a deux sur six.
C'est ça.
Bon,
c'est pas
ça du... c'était le discours.
Avant,
juste avant le 7 novembre 2005. Et puis, ils ont totalement tourné Kazakh au moment des réquisitions.
Eux aussi ont viré, alors.
Ah oui, totalement.
Et est-ce que, pourquoi, à votre avis, j'en songe, pourquoi est-ce que le parquet, c'est l'institution elle-même, vire et ne soutient plus l'accusation?
La présidente de la cour d'assises à Paris, je pense, avait déjà son opinion toute faite. Puisque elle a récusé totalement les experts, dont on peut discuter du rôle et des analyses, mais en tout cas les balayer d'un revers dans la main, les experts psychiatriques ou psychologues, en disant de toute façon ça ne nous intéresse pas, vos analyses ne nous intéressent pas, et donc on ne tient pas compte de toute façon de votre avis. On sous-estime à ce moment-là totalement on met sous le tapis la parole des enfants, quoi. On ne revient pas sur la parole des enfants. Ils sont très peu écoutés à ce moment-là. Ils sont mis aussi dans des conditions déplorables à Paris. Ils font les allers-retours en train de Boulogne pour quelquefois ne pas être auditionnés dans la journée, repartir, revenir le matin. Enfin, il y a un traitement à tous les niveaux des enfants qui est insupportable.
C'est ça. Et qui aujourd'hui paraît scandaleux. Mais c'était pas le cas à l'époque.
En tout cas, ça n'a pas fait hurler.
Frédéric Valandré.
À propos du parquet de Paris, j'aimerais ajouter quelque chose. Alors, il faut bien voir une chose, c'est bon. Moi, je pense que l'analyse de Gilles Antonowitz dans son livre, le premier, donc la première version 2013, nouvelle édition en 2023, il avait titré un de ses chapitres « Le parquet vole au secours de la victoire ». Je pense qu'il y avait une volonté d'être dans le coup, d'être oui, du côté, ça. Voilà, restauration de l'innocence outragée.
Oui.
Mais en off, c'était totalement différent. Parce que Yves Bott, moi je me suis dit, bon, il est décédé en juin 2019. Yves Bott, personne n'a fait attention qu'il a sorti un livre quelques temps après le deuxième procès d'Outreau qui s'appelle Ma Justice, aux éditions Bourin, Emmanuel Bourin. Et en page 7, il dit, j'ai une pensée donc pour les acquittés, qui ont passé des années de détention provisoire, pour les enfants victimes, dont on ne saura jamais combien il y a eu d'agresseurs. Ce qui laisse entendre qu'il pouvait y en avoir plus que les 4 définitifs. Et personne n'a fait attention à ça. Et un dernier détail, et un des avocats protagonistes du procès de Paris, un des avocats des parties civiles, qui a rencontré Yves Bott après le procès de Paris. Et il lui a dit, mais pourquoi vous avez fait cette conférence de presse, cette fameuse conférence de presse,
avant
que la cour et les jurés n'entrent en libération? Pourquoi le 30 novembre 2005, en fin de journée, pourquoi vous avez fait cette conférence de presse? Il a reproché, clairement, hein, poliment, mais clairement. Et Yves Bott a eu cette phrase qui peut être sujette à interprétation, c'est « nous n'étions pas politiquement audibles ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que c'était pas politiquement audible de continuer à soutenir au moins partiellement l'accusation? Ou est-ce qu'on n'était pas politiquement audible, donc il fallait qu'on vole au secours de la victoire?
Qu'on vole au secours de la victoire, j'en songe. On a le sentiment, parlons un mot de la commission parlementaire. Parce que commission parlementaire, là aussi, c'est quand même... Il se passe de drôles de choses dans la commission parlementaire.
Ah ben la commission parlementaire, c'est quand même, à mon sens, c'est une immense mascarade, de toute façon. Et étant donné que le principal responsable de cette commission va uniquement se baser sur le livre de la journaliste dont on ne veut pas citer le nom, mais qui a publié La Méprise, qui a été son ouvrage de référence pour guider, de toute façon, les débats.
Il n'avait pas lu le dossier, il avait lu La Méprise.
Il a lu certaines pages du dossier, certaines pièces. Ça reste très flou. Il n'a pas lu le dossier dans son intégralité. Il a lu certaines pièces, il l'a dit et écrit. Et surtout, il se réfère... il le dit, ce livre a été mon guide. Donc c'est un livre totalement partial, qui balait les enfants, mais d'un revers de plume absolument scandaleux. Donc, c'est faussé dès le départ.
C'est ça, c'est faussé
à cette
dès
commission
le départ.
Parlementaire, quand même, les, aucun enfant n'a été entendu, oui. quand même. C'est quand même un...
Oui. Et alors, il y a aussi... Pourquoi, alors c'est une parole de Christian Vigouroux, on peut citer son nom, parce que c'est un directeur de cabinet, un conseiller d'État, qui dit, et je pense que cette explication est intéressante, c'est un peu comme si les politiques voulaient prendre leur revanche. On est après une quinzaine d'années, disons, dans lesquelles les juges ont occupé, ont inquiété un certain nombre de politiques.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a parfaitement... D'ailleurs, je l'ai cité, Christian Vigouroux.
Oui, c'est ça. C'est dans votre livre que
j'ai dit. Dans le livre de Pierre Rance sur la ennemi juré, sur les rapports entre les juges et les politiques. Oui, il y avait un côté revanche, bien évidemment. Et puis, c'est donner bonne conscience en étant les pourfendeurs de l'injustice. Le manichéisme d'un certain nombre de parlementaires lors de cette commission n'est pas passé inaperçu. Pascal Robert-Dière, dans Le Monde, l'avait souligné. C'est-à-dire que un ton particulier, les yeux de chimène pour les avocats de la défense, les avocats des associations de partis civils traités rudement, l'avocate de Myriam Badawi également, traitée comme une accusée, et ne parlons même pas la façon dont le juge Burgot était interrogé comme un voleur de vélo, dit Christian Vigouroux.
Oui, c'est ça.
C'est quand même pas mal.
C'est ça. Alors, ça dit quelque chose, quand même, de ce, je crois que de cette époque et aussi de notre époque, c'est-à-dire le souci de ceux qui doivent animer, défendre, faire vivre une institution, qu'il s'agisse des avocats, des magistrats, des policiers, des procureurs généraux, des politiques, qui sont là pour une institution qui fait un ensemble d'institutions qui font la République. On a l'impression qu'ils démissionnent de leur rôle pour ne pas être à la traîne, c'est mon sentiment en vous lisant, ils veulent pas être à la traîne du sens du vent qui va en direction des accusés, curieusement, j'en songe.
À l'issue des multiples revirements, il faut mettre en évidence, à mon avis pour eux, deux boucs émissaires principaux. À savoir le juge d'instruction Burgot et Myriam Badawi, mythomane absolue. Mais personne ne connaît, enfin, aucun d'entre nous, je pense, ne connaît quelqu'un qui ment tout le temps, sur tous les points. Ça me paraît intenable. Myriam Badawi a menti, en effet, a affabulé sur beaucoup de points du dossier, ce qui a contribué à le troubler davantage. Mais il y a des choses qui sont...
Oui. C'est ça, des choses qui sont vraies dedans.
Qui sont vraies. Et le truc, c'est d'arriver à passer le tamis et de voir ce qui reste. Mais il y avait des possibilités, mais c'était beaucoup plus... C'était la voie de la facilité. Enfin, le bouc émissaire, ça a toujours fonctionné.
Thank you.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les enseignements de l'affaire Doutreau 20 ans après, en compagnie de Jean Songe, qui a publié un livre intitulé « À l'ombre d'Outreau », publié aux éditions Don Quichotte Le Seuil, et de Frédéric Valandret, qui a publié deux ouvrages au moins sur l'affaire Doutreau. Frédéric Valandret qui a choisi de nous faire entendre là aussi une musique de film, le thème du film « Garde à vue » de Claude Miller de 81, une musique de Georges Delerue. Pourquoi ce choix, Frédéric Valandret ?
C'est sans doute un des films qui m'a le plus marqué dans ma carrière de spectateur.
Oui, de la...
musique envoûtante qui reflète parfaitement l'ambiance très, très particulière de ce film. Parce que justement, ça monte un petit peu la nuance. Ça monte un peu nuancé que le personnage Michel Serrault est un personnage assez complexe.
Oui.
Après, je serais tenté de dire une espèce de coupable innocent,
oui.
Parce qu'on, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film.
C'est ça.
Et puis, même si ce n'est pas une adaptation au sens strict, c'est sans doute la meilleure fiction inspirée de l'affaire, d'une affaire qui a eu un retentissement, oh oui, comparable à celui de l'affaire Doutreau, même si à l'époque. L'affaire de Brouwer en Artois.
Oui, c'est ça. Mais qui n'est pas sans lien avec l'affaire Doutreau. On est dans le Nord, le notable,
voilà.
Le petit juge. Bon, c'est un contexte qui est très différent. Mais alors, Jean Songe, on a vu, après avoir planté le décor, on voit à quel point c'est un procès qui a viré dans le mauvais sens dans un sens très très manichéen précisément. Mais quand même derrière tout ça, il y a une difficulté, c'est que dans ce procès, c'était parole contre parole, parole d'enfants, de petits enfants contre parole, notamment d'une mythomane qui changeait de vie, qui innocentait tout le monde après avoir accusé tout le monde, Jean Songe.
Il y a plusieurs aspects, puisque ces paroles ou les faits qu'elle avançait étaient souvent confirmés par d'autres mises en examen.
Donc c'était pas complètement faux.
Donc il y avait un trouble et la difficulté c'était de faire concorder ces faits, les paroles exprimées et les faits, parce qu'il y a eu très peu, en effet, d'éléments matériels dans le dossier, ou en tout cas qui n'ont pas été exploités, ou pas assez bien exploités, en tout cas les rares dont on disposait. Donc à 90%, je dirais à la louche, tout repose en effet sur les paroles des uns et des autres. La difficulté pour entendre, écouter, entendre, on sait les nuances d'enfants, qui en effet sont très jeunes au moment des faits, et qui sont encore très jeunes quand ils déposent devant les policiers, devant le juge et tout. C'est d'arriver, même si on pense qu'un enfant ment, personne ne cherche à savoir pour quelle raison il ment.
C'est ça.
Oui. Contrairement aux adultes, où là on sait, les adultes savent pertinemment pour quelle raison ils mentent. À moins d'être un peu idiot ou inconscient, le mensonge a un fondement chez l'adulte. Chez l'enfant, si lui dit quelque chose qui va peut-être être contrarié par certains peu d'autres, mais pourquoi il dit ça ? Quel est lui son intérêt à ce moment-là de cette fabulation, on va dire ?
Oui. Alors surtout que, les policiers ont beaucoup travaillé, les juges ont beaucoup travaillé. Il y a des choses qu'ils auraient pu faire. Vous insistez là-dessus, Frédéric Valandret, et c'est important parce que ça aurait été peut-être un élément qui aurait confirmé. Il y avait 300 cassettes pornographiques à peu près.
Alors 300 cassettes dans la vidéothèque de Thierry Delay,
oui.
163 films classés X, donc pornographiques, oui. Et 61 films d'horreur. Donc Fabrice Burgot a très légitimement fait appel au service de police scientifique, donc de la gendarmerie, qui à l'époque, l'IRCGN, qui était à l'époque à Rosny-sous-Bois, ils n'étaient pas encore à Pontoise, et au laboratoire de police scientifique de la police nationale à Écully, dans la banlieue lyonnaise.
Pour qu'ils visionnent tous ces films.
Et ils leur ont dit, on n'a absolument pas le temps de tout visionner. Donc, ils ont fait des vérifications, voir si ça si les films étaient effectivement correspondaient à la législation, etc. Mais ils n'ont pas eu le temps de tout visionner.
Et ils n'ont pas eu le temps de visionner notamment des scènes, ce qui était dit par les enfants et par d'autres, que ces scènes de violence sexuelle étaient filmées. Frédéric Ballandré.
Bah, le problème, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas pu visionner toutes les cassettes, ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils avaient de visionner toutes les cassettes, impossible de savoir si sur ces cassettes, il n'y avait pas des scènes tombant sous le coup de la loi d'enregistrement d'images pédopornographiques qui auraient été réenregistrées sur des cassettes porno achetées par Thierry Delay. Ça, on n'en sait strictement rien. C'est impossible de le prouver.
C'est un peu dommage.
C'est un peu dommage. Et puis, l'éventuelle, la possible, très possible influence de scènes, des scènes qu'on pouvait voir dans ces films, films d'horreur, films pornographiques, par rapport au récit des enfants.
C'est ça. Parce qu'on sait, vous le dites d'ailleurs, vous faites état des travaux scientifiques qui montrent que c'est pas anodin pour des enfants d'être confrontés à des films pornographiques, à une ambiance extraordinairement délétère, extraordinairement violente.
Fabrice Burgot lui-même s'est posé la question. Quand Jonathan Delay lui a parlé du meurtre de la fillette, il a dit « Mais n'as-tu pas vu cette scène dans un film ?» Et le fait est qu'il est avéré que les enfants Delay, en plus des films pornographiques, regardent des films d'horreur. Alors moi, j'ai donné quelques éléments dans mon livre. Par exemple, quelque chose qui m'a troublé. Il dit « En Belgique, il y avait parmi ceux qui nous faisaient des manières, la formule qui revenait souvent, un homme à moto avec un gant. » Bon, je connais pas beaucoup de motards qui se baladent avec un seul gant.
Par contre, il y a un film d'horreur.
Oui. Bon, connu que des spécialistes de Nanar et autres séries Z, où le tueur pendant la dernière demi-heure se balade sur une moto et il a qu'un seul gant de cuir à la main droite et donc il a son casque de motard. Alors le problème c'est que à ma connaissance, j'ai demandé à l'IRCGN, ils ne m'ont pas répondu. Aucune liste, ne serait-ce que les titres, qui auraient permis de faire une comparaison.
Aucune
liste n'a été dressée, à ma connaissance, les titres.
Alors, Jean Songe, finalement, le problème qui reste dans ce procès, il y a des dysfonctionnements de la justice, on est dans une période dans laquelle le président de la République n'aime pas tellement les juges non plus, Jean Songe.
il y avait le contexte, en effet, de l'époque où... où Nicolas Sarkozy souhaitait avoir la peau des juges, quand même.
C'est ça.
Où ça pesait.
Alors, les enseignements, qu'est-ce que, finalement, pour vous, à vous lire, Jean Songe, le principal problème, c'est qu'il faut entendre les enfants différemment. On ne peut pas mettre les enfants, et finalement les considérer comme des adultes, et les mettre dans une situation d'un procès qui est non seulement à armes inégales, mais qui marche contre la justice.
Ouais. Pour moi, le thème essentiel du livre, le cœur secret, ce que j'appellerais le cœur secret du livre, qui je pense transparaît, c'est la souffrance des enfants. Pour moi, c'est le noyau dur du livre. C'est-à-dire que si on en revient au mensonge ou au travestissement de la vérité, etc., quelle que soit la forme qu'on lui donne, il y a quand même des paroles d'enfants. Moi, je voudrais en citer quelques-unes. Quand un enfant de 7 ans et demi dit « Je n'aurai jamais de femme parce que l'amour, ça fait mal. Je ne veux pas d'enfants pour qu'ils aient la même chose. » C'est-à-dire subit la même chose. Une petite fille de 8 ans dit « J'en ai vu des choses. » Et quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, quelle était l'attitude des adultes, elle répond « c'était pour nous faire du mal, ils ne nous aimaient pas ». Il y en a une autre qui dit « mais pourquoi les adultes faisaient ça ?» Et là, une autre petite fille répond « pour se venger de quelque chose ». Et tous les enfants, c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Il y en a un qui dit « ça a été la pire chose de ma vie ». Enfin, il faut l'entendre. Un autre qui dit « c'était méchant, ils nous faisaient mal ». Donc, qu'est-ce qui pousse un enfant à dire ça? C'est qu'il y a quand même des dysfonctionnements, je l'ai dit, majeurs dans les familles.
C'est ça. Et ça veut dire, la parole d'un enfant, elle est très expressive, quoi, on voit très bien. Et c'est un peu comme une anémone de mer. C'est-à-dire que si on la brusque trop, il se referme. Frédéric Ballandré.
Pour en revenir à la parole des enfants, aussi, ce que j'évoquais dans mon livre, dans mon dernier livre, Et ce qui a été beaucoup évoqué, notamment critiqué par l'inspection générale des services judiciaires, c'est que, alors que la loi le prévoyait déjà à l'époque, très peu d'enregistrements audiovisuels des auditions des enfants. Il n'y en a eu que 7, tous réalisés dans les locaux de la brigade de protection des mineurs du capitaine Vallet. Le juge, suivant les avis des experts psychologues ayant entendu les enfants, qui avaient clairement indiqué, déconseillé l'enregistrement audiovisuel des auditions des enfants dans le bureau du juge, parce que ça pouvait réanimer leur traumatisme, sachant que les enfants disaient avoir été filmés.
C'est ça.
Ils avaient été filmés. Donc, régulièrement, vous voyez les PV du juge, il y a marqué, en raison, effectivement, du traumatisme, sur les conseils de l'expert, nous ne procéderons pas à l'enregistrement. En fait, il y a eu que 7 auditions enregistrées dans les bureaux de la...
Et qui ont été projetées, dont les films ont été projetés pendant le procès.
Il y a eu deux auditions, je crois, qui ont été.
En plus, la qualité n'était pas très bonne.
Et la qualité était très très mauvaise. Le son était très mauvais, donc on comprenait rien, et etc. Enfin, ça avait. Elle servait à rien, de toute façon.
Et en fait.
Petit. Gag, c'est terrible de dire ça, mais au procès en appel à Paris, la cassette qu'ils ont voulu produire, il y a une erreur, parce que c'est un dessin animé qui a été projeté. Ils avaient perdu l'original. C'est quand même extraordinaire.
Alors,
aussi.
L'émission approche de sa fin. Je voudrais vous poser la question. Aujourd'hui, on a changé d'époque. C'est une question que je vous pose, c'est l'impression que j'ai. Est-ce qu'on n'a pas changé d'époque? Est-ce que le procès de Mazandre, qui nous a tellement secoué ces dernières semaines, il n'y a pas si longtemps, est-ce que Outreau se repasserait de la même manière aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut se risquer à répondre cette question de justice fiction.
On peut regarder.
J'en songe.
Sur un des aspects de l'affaire, j'ai pas suivi de près cette affaire parce que je la trouve d'une horreur indescriptible. C'est que quand même à l'issue du verdict, il y a quand même des avocats de la défense qui continuent quand même à insinuer que peut-être quand même elle était plus ou moins consentante dans certaines circonstances. Enfin, je veux dire, c'est quand même insupportable.
Oui,
quoi.
Mais ça c'est le rôle de la justice, Janson. Vous ne pouvez pas demander un procès, c'est contradictoire.
Non, mais à l'issue du verdict, qu'on continue à insinuer quand même dans l'opinion publique que peut-être, vous savez, Moi, j'ai un biais cognitif subjectif. Je suis très remonté contre les avocats de la défense depuis depuis la lecture.
Ça c'est dit. Depuis la lecture du dossier. Alors, Frédéric Malandré.
L'affaire de Mazan est extraordinaire, surtout parce qu'en fait, je pense que c'est rare qu'on ait autant de preuves matérielles.
Oui, parce que là, il y a
souvent
les films,
dans les affaires de viol, que ce soit les viols sur des victimes adultes ou des viols sur des victimes mineures. On est souvent, il y a souvent des lacunes au niveau des preuves matérielles, on est souvent dans le parole contre parole. Mais là, parole contre parole, il n'a pas été question, sachant que tout a été enregistré.
Je pense, hélas,
j'en songe,
que les choses n'ont pas tellement évolué. Parce que regardez aussi l'attitude des accusés, où nombre d'entre eux ni quand même le viol, ne se sentent pas quand même dans la peau d'un violeur.
Mais l'opinion publique n'a pas embrayé avec leur position de défense.
L'opinion publique qu'on voit médiatiquement, je suis pas sûr que si on faisait un énorme sondage national, ça soit partagé par tout le monde. Je suis pas convaincu.
Les temps ont quand même changé, parce que quand même, il faut pas oublier les accusés qui comparaissaient libres arrivaient sous les huées. Ils étaient cachés sous des casquettes et des masques anti-Covid. Alors que la fameuse affaire, je me souviens plus des détails, l'affaire dite du procès d'Aix-en-Provence.
Oui.
Qui a sensibilisé l'opinion publique au viol.
On était...
Où Gisèle Halimi était avocate, partie civile, elle défendait 2 touristes. Elles se faisaient insulter parce qu'on disait, oui, c'est des filles faciles, des lesbiennes, etc.
Est-ce que, et ça sera le dernier mot, j'en songe, finalement, tout repose sur un nouveau traitement beaucoup plus respectueux de la parole des enfants?
En tout cas, oui, sur ce volet-là, oui, j'en suis persuadé. Un enfant n'est en effet pas un adulte, c'est une personne, comme on le dit quand on étudie un peu le processus d'évolution des enfants. Mais il y a un respect évident
qu'on leur doit.
Qu'on leur doit.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Valandret, merci Jean Songe. Je rappelle votre livre « À l'ombre d'Outreau, le récit définitif de l'affaire » qui a été publié aux éditions d'Anquichotte, Le Seuil. Et Esprit de Justice est terminé ce soir. La technique, il y avait Ludovic Auger, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Juliette Marcaillou, une émission d'Antoine Garapon.